Si vous pouvez d'abord votre nom, et ensuite vous poserez une question brève, car nous sommes nombreux et certainement il y a beaucoup de gens ici qui souhaitent poser des questions. Alors, l'ordre de parole, de prise de parole sera l'ordre alphabétique. Alors, nous allons commencer par Quentin. À vous la parole, cher.
Merci, Madame la Présidente. C'est trop aimable parole d'introduction, tout à fait imméritée, croyez-le. Ça marche pas ? C'est un métier, Nico.
C'est la voix. Pourtant, c'est la voix, oui. C'est la voix, pourtant.
Ça paraît bien. Est-ce que vous m'entendez dans vos... Oui. Je remercie donc, Madame le Président, de ces mots très charitables d'introduction, qui sont immérités, disais-je. À mes confrères et à moi-même, Madame le Président, vous avez souhaité que nous répondions à cette interrogation. Est-ce qu'il faut pratiquer la langue anglaise pour être identifiable comme européen? Alors cette question, j'en ai bien conscient, mesdames et messieurs, tient à la fois de la provocation et du piège, car vous l'avez voulu ainsi. Et je dois dire que devant cette assemblée, dont j'imagine que ce soir, majoritairement, il y a des francophones militants, vous souhaitez ardemment que je réponde par la négative. Eh bien, au risque d'en décevoir quelques-uns, il n'en sera rien. Je tiens en effet la langue anglaise pour un élément indispensable de l'alluvionnement culturel que nous ont légué les siècles précédents. Un héritage, mesdames et messieurs, dont nous ne faisons pas toujours le meilleur usage. Mais, cher Pierre Boyer, si votre question, c'était de savoir si dans un monde idéal, celui-ci manifestement ne l'est pas, la langue anglaise aurait été choisie comme idiome universel, ma réponse est clairement non. La langue anglaise est inaboutie, elle a une grammaire qui est floue et son orthographe n'est toujours pas fixé. C'est à ce point qu'un anglophone de souche, un locuteur naturel de la langue anglaise, ne peut pas dire à haute voix un mot qu'il ne connaît pas. Nous pourrions effectivement à l'infini, à l'envi, comparer les avantages des langues latines, de l'allemand, et les inconvénients de la langue anglaise. Ce ne sera pas mon propos ce soir. Je crois que parmi vous, nombreux sont ceux qui enfourcheront ce cheval de bataille-là. Mais c'est vrai. Lorsqu'on regarde la langue française et ses sœurs latines, lorsqu'on regarde l'allemand, on se dit qu'il y a là une précision et aussi des nuances que l'on trouve difficilement dans la langue anglaise, du moins celle qui est pratiquée à Bruxelles. La langue française pratique une forme d'expression qui traduit un sentiment comme s'exhale un parfum. La langue anglaise, elle, recense le sentiment comme le fait un être comptable. Et prenons le cas, mesdames et messieurs, du langage juridique. Nombreux, je pense, sont les juristes parmi nous ce soir. En Allemagne, le langage juridique est relativement compréhensible du tout venant. La plupart des termes juridiques allemands sont faits à base d'agglutinements de mots du langage courant. En France, nation de juristes, du moins de plaideurs, eh bien, vous savez comme moi, nos compatriotes sont très nombreux à pouvoir déchiffrer et penser pouvoir le faire, les textes juridiques, même les plus arbitraires. Il n'en va pas de moins dans le monde anglophone. Le droit en Angleterre, en Irlande, en Amérique du Nord, est le fait d'une infime minorité des diplômés de l'enseignement supérieur. Et le langage juridique est absolument incompréhensible pour le tout venant. Il est dépourvu de ponctuation, il se sert de termes qui ou bien n'existent pas dans la langue courante ou alors existent sous une autre acception. Je peux prendre un exemple, si vous voulez. Pas un francophone n'a de difficulté à comprendre l'expression « rapprochement des législations ». En revanche, la version anglaise « approximation of legislation » est totalement incompréhensible pour un anglophone, d'autant plus que le mot « approximation » a une signification toute différente en langage courant. Mais on va s'arrêter là. La comparaison est trop défavorable. Et encore et toujours, nous travaillons dans un monde réel, et clairement, l'anglais s'est imposé. J'ai cependant un regret, c'est que je suis persuadé également que la langue anglaise sera la première victime de la mondialisation de son monde. Je pense qu'aujourd'hui déjà, les élites culturelles au Royaume-Uni et en Irlande pratiquent ce qui n'est plus qu'un dialecte fortement minoritaire dans le monde anglophone. Je crains aussi que dans quelques décennies, la littérature classique de langue anglaise, de Shakespeare à Signe, soit compréhensible par une simple petite poignée d'érudits. Mais voilà. Est-ce qu'il faut parler l'anglais pour être européen? Assurément non, s'il s'agit du plus grand nombre. Probablement oui, s'il s'agit des milieux européens, qui sont donc là où nous sommes aujourd'hui, au cœur des institutions. Probablement oui, mais je voudrais nuancer ce propos. Probablement oui, mais pas nécessairement à un niveau très avancé. Vous savez, l'anglais a également une autre caractéristique, c'est qu'à défaut d'être locuteur naturel, il est extrêmement difficile d'atteindre un niveau de maîtrise totale de cette langue, contrairement au français ou à l'allemand, pour ne reprendre que ces deux exemples-là. Je me suis toujours demandé pourquoi tant de membres de ces milieux européens, vous-même peut-être d'ailleurs, s'ingénient à se donner un désavantage tactique majeur dans toute négociation en cherchant tant bien que mal à baragouiner en anglais, alors qu'en face d'eux, il y a des anglophones qui maîtrisent fatalement cette langue bien mieux. Aussi, j'ai souvent remarqué que nombre de nos amis francophones, de nos compatriotes français, mais d'autres aussi, prennent la parole dans ce qui leur paraît être de l'anglais, qui vient souvent, mesdames et messieurs, que le Canada Dry est de l'anglais, prennent la parole dans leur version de l'anglais, alors même que l'interprétation est assurée en cabine de et vers leur langue. J'ai toujours trouvé que c'était d'un rare manque de courtoisie vis-à-vis des interprètes, qui sont de grands professionnels et de vrais trémillions de la compréhension internationale. Alors oui, l'anglais, mais probablement un anglais élémentaire, une connaissance de base de l'anglais, qui permette de converser, de jargonner en affaires européennes, assurément. Mais ce n'est pas la peine d'aller plus. En revanche, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'il convient de maîtriser une langue autre que l'anglais. Pas nécessairement une grande langue de communication internationale. L'anglais en est une, bien sûr, mais l'espagnol, mais l'allemand, mais l'italien. Pas nécessairement. Songez aux rapports humains que vous pouvez avoir avec des gens qui travaillent dans vos institutions, dans vos organismes, si vous êtes capable de parler leur langue. Songez aussi que le fonctionnaire ambitieux qui est estonien et qui manie la langue maltaise a toutes les chances de se retrouver au cabinet du commissaire maltais. Il pratique l'anglais, ses chances sont bien. Alors, oui, l'Europe pluriculturelle, plurilingue, mais pas nécessairement en passant par une étude effectivement approfondie de la langue. Madame le Président, j'ai conscience d'avoir probablement abusé un peu de mon temps de parole et je m'attends à être totalement contredit en tout par mes voisins à qui je passe maintenant si je veux bien la parole.
Difficile de prendre la parole après l'Iliade et l'Odyssée que vient de nous conter. Moi, je suis pas homme de radio. Voilà. Le mode d'emploi est en anglais, c'est pour ça.
Voilà.
Difficile de prendre la parole.
C'est pire que ça.
Difficile de prends la parole après l'Iliade et l'Odyssée que vient de nous conter Quentin Dickinson. Mais je dirais que pour placer le débat, on peut passer à deux débats à deux niveaux différents. Et je crois que la question de ce point de vue est un peu piégée. Est-ce qu'il faut parler anglais aujourd'hui à Bruxelles, dans les institutions européennes, pour se sentir européen? Je dirais, hélas, oui. Et j'ai vu en quelques années l'ensemble des institutions dériver vers le tout anglais. Et souvent avec la complicité active des élites françaises et francophones, notamment, j'ai assisté à ça pendant les négociations d'élargissement, où les Français d'eux-mêmes parlaient anglais à leurs interlocuteurs estoniens, lettons, hongrois, polonais. Moi-même, je leur parlais anglais dans très mauvais anglais, et au bout d'un moment, mes interlocuteurs me disaient « Mais vous parlez français, vous êtes très bon français, on pourrait peut-être passer au français. » Et ils m'ont raconté eux-mêmes que les négociateurs francophones ne s'adressaient pas à eux en français, mais tout naturellement en anglais, et éventuellement en très mauvais anglais. On appelle ça le globish, qui est une langue qui permet de voyager à peu près partout et de commander au restaurant, ce qui est quand même très pratique pour nous. Donc à Bruxelles, clairement, on doit parler anglais, c'est une nécessité, je le regrette, et je pense que la France a une très grande responsabilité dans ce dérapage. Je vous rappellerai toujours d'une anecdote, j'aime bien raconter des anecdotes, c'était pendant les négociations d'élargissement aux pays d'Europe du Nord et à l'Autriche, et je pose la question à Alain Lamassoure, qui à l'époque était ministre délégué aux affaires européennes, et je lui demande, tiens, en fait, est-ce que vous avez négocié l'équivalent des accords Pompidou-Is à propos de la langue française. Il m'a regardé, car à l'époque, c'était pas le connaisseur aussi fin de l'Europe qu'il est devenu depuis, absolument sidéré, se demandant de quoi je parlais. Et donc, je lui ai expliqué, et il m'a regardé comme si j'étais un homme préhistorique, comme si on négociait ce genre de choses. Naturellement, non, on ne va pas négocier les langues, on va le payer. Vous allez le voir à terme, parce que la législation, comme le dit très bien Quentin Dickinson, le droit, et ça donne un avantage si on négocie dans sa langue, et non pas dans la langue, notamment anglo-saxonne, dont les concepts juridiques, moi-même ayant été juriste pendant 10 ans, ne sont absolument pas les mêmes que les concepts continentaux, en tous les cas le droit franco-allemand, qui est la base du droit communautaire. Deuxième niveau du débat, qui est un petit peu différent, c'est celui de l'espace public européen. Et que Bruxelles, hélas, perd de vue. À Bruxelles, on s'imagine que parce que le Financial Times est favorable, par exemple, à une politique de la Commission, tout va bien. Si le Financial Times est d'accord, c'est parfait. L'Europe va bien. Et c'est comme ça que la Commission s'est laissée surprendre par les référendums de 2005. Comment ça, les peuples ne veulent plus de cette Europe-là? Mais c'est incroyable que le Financial Times était d'accord avec le traité constitutionnel européen. Comment ça, en France, on a peur de la directive sur les services? C'est la directive service, la directive Bolkenstein, mais c'est incroyable, le Financial Times l'approuve. Parce que ces gens vivent dans un monde, dans une bulle qui n'existe pas. Évidemment, dès qu'on quitte Bruxelles, donc dès que vous allez à Paris par exemple, les gens ne parlent plus anglais. C'est terminé, mais c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour n'importe quel pays européen. Le peuple, en général, les citoyens ne parlent pas l'anglais. Et ça, on l'a totalement oublié. C'est de moins en moins vrai. Mais. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Là, je ne le pense pas, parce que je pense que le plurilinguisme est une vision de l'esprit. Je ne crois pas à 500 millions de citoyens parlant tous couramment 2, 3, 4 ou 5 langues et à plusieurs langues de dialogue. Ça, je ne crois pas une seconde. Je pense qu'il va falloir trouver un latin, une langue commune, si on veut un jour avoir un espace public commun. Si un jour l'Union européenne doit devenir une fédération européenne, ça ne pourra être que si nous avons une langue de communication commune. Sinon, les espaces publics resteront nationaux, et donc l'Europe restera ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une Europe des États et une Europe de plus en plus intergouvernementale. Donc le fédéralisme européen implique un espace public européen, et l'espace public européen implique une langue de communication commune. Et donc, c'est pour cela que moi-même, en mon corps défendant, j'exige que mes deux enfants parlent parfaitement anglais, parce que je considère que cela fait partie du futur de l'Europe, même si je le regrette. Simplement, le marché aujourd'hui a tranché, encore une fois, c'est en grande partie de notre faute à nous Français, mais on a laissé la langue anglaise s'imposer, et il va falloir vivre avec, et autant bien vivre avec. Alors, ça ne sera pas cet anglais parfait que souhaite Quentin Dickinson, mais ça sera un globish amélioré. Mais ce globish-là, ça sera comme le bas latin qui a permis, je dirais, à l'Europe, d'après la chute de Rome, de communiquer entre elles et de transmettre son savoir. Voilà.
devoir prendre la parole après Quentin Dickinson et Jean Quatremer est un redoutable privilège. D'abord, parce que dans l'expression orale, un francophone de Belgique partira toujours avec un léger handicap.
Quel mordeur! La vie, c'est belle!
La preuve, ils sont improvisés, ce que je n'aurais jamais osé faire. Ce n'est ensuite et surtout parce que passer le troisième sur le thème qui nous réunit ce soir, c'est courir le risque de redondance et autres redites. Alors, pour éviter ce risque, tant que faire se peut, j'ai pris le parti de vous préparer ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un biais d'humeur. D'aucuns pourront le juger politiquement incorrect. Je ne crois pas prendre énormément de risques ici, et de toute manière, j'assume. Pour apporter ma réponse à la question qui nous est posée, faut-il parler anglais pour être européen ? Permettez-moi d'abord de remonter un peu dans le temps. La question des langues, en réalité, est posée depuis très longtemps dans le contexte européen. Donnez deux exemples. L'été 1952, la haute autorité de la communauté européenne du charbon de l'acier, la première communauté, s'installe à Luxembourg. Le vice-président belge, Albert Copé, certains s'en souviennent certainement, un flamand de Bruges, mais c'est un temps où l'élite de la partie nord du pays s'exprimait parfois dans un meilleur français que beaucoup de francophones, adresse sa première note au président de la haute autorité, Jean Monnet. Il l'écrit en néerlandais. Pourquoi ? Il voulait revendiquer ainsi le fait que le néerlandais, tout comme l'italien, soit reconnu comme des langues officielles de cette première communauté. Il a eu là probablement un travail précurseur qui a porté ses fruits, puisque toutes les langues nationales sont reconnues maintenant dans l'Union européenne comme des langues officielles, ce qui différencie l'Union européenne de toutes les organisations internationales classiques. Premier élément. Pour l'anecdote, et je la tiens de Jacques René Rabier qui devait être présent ce soir, qui n'est pas parmi nous hélas, et qui était à l'époque de la garde rapprochée de Jean Monnet, Copé a aussi été ramené au principe de réalité dans cette affaire à une certaine forme d'humilité. Un jour, il entame un propos en flamand, et je dis flamand à dessein. Très vite en effet, Rabier et ses collègues voient le commissaire néerlandais, hollandais, se saisir de ses écouteurs. Ce qui est une manière aussi de prouver qu'on n'est jamais trahi de par ses amis. Tout ça pour dire que la question des langues est très compliquée. Et il me semble qu'on est en train de la simplifier aujourd'hui, et depuis un certain temps déjà, de manière un petit peu artificielle. Moins au Parlement européen qu'au Conseil des ministres et surtout à la Commission européenne, la tendance est en effet de plus en plus au tout à l'anglais. Bon, pour ce qui est des langues de travail des institutions européennes, que l'anglais domine désormais n'est peut-être pas choquant en soi, il y a un principe de réalité, l'anglais est devenu effectivement la lingua franca qui prévaut au niveau des élites administrative, politico-administrative de l'Union européenne. Donc, on pourrait simplement en prendre acte. Mais ça pose la même question. Pourquoi, lors des négociations d'adhésion, d'élargissement à un pays comme la Bulgarie, comme la Bulgarie et a fortiori comme la Roumanie, où le français, la connaissance du français reste même prégnante, pourquoi a-t-il fallu que ces négociations soient menées exclusivement en anglais ? Je pose la question, ça veut dire qu'il y a, à mon avis, en tout cas, un malaise, peut-être même une dérive. La dérive est en tout cas très nette, selon moi, lorsqu'on observe la communication institutionnelle. Et la Commission, encore une fois, en tête. La communication vers les citoyens. L'exemple le plus frappant, mais vivant à Bruxelles, nous sommes tous. Nous les avons tous les jours sous les yeux. Ce sont les banderoles où la Commission, les institutions annoncent un événement. Est-il normal que dans une ville qui est quand même largement dominée par le français, ou le flamand, le néerlandais, a largement sa place aussi, dans la capitale d'un pays qui compte quand même une communauté écouté Germaine Le Fleury. Est-il normal que l'on passe systématiquement, et trop souvent encore, malgré le long pas de DLF, uniquement par le biais de l'anglais? Je ne le pense absolument pas, et je crois que cela contribue, comme Jean l'a déjà affranché, ça contribue d'une certaine manière à écarter, à éloigner l'Europe institutionnelle de ses citoyens. Et donc, dans ce sens-là, je me demande s'il n'y a pas, de la part des institutions, en tout cas une erreur coupable qui est commise, et peut-être même une faute. Mais voilà, c'est là que mon propos va devenir politiquement moins correct, du moins aux yeux de certains. S'agit-il vraiment d'une erreur coupable et ou d'une faute? Ne s'agit-il pas plutôt du fruit d'un groupe, oui, j'ose le mot, en tout cas d'une stratégie mûrement réfléchie dans le monde anglo-saxon? Alors, je ne suis pas loin de penser, et je vais vous donner quand même deux, trois éléments qui m'y incitent. D'abord, il me revient à l'esprit que le président américain Eisenhower, dans les années 50, aurait arrêté que la suprématie des États-Unis dans le monde, que celle-ci soit militaire, qu'elle soit économique, devrait être consolidée par une offensive culturelle et partant linguistique, afin de devenir durable. Ben, moins qu'on puisse dire, c'est que cette stratégie a été payante. La culture hollywoodienne triomphe aujourd'hui sur tous nos écrans, et jusque dans certaines assiettes, avec la McDonaldisation, ça me paraît quand même la preuve d'une certaine efficacité, et je crois que par ce biais, cela a contribué à asseoir aussi la suprématie anglo-saxonne américaine sur l'économie, sur la finance, à travers les multinationales, et même dans les sciences, pour un universitaire aujourd'hui, sauf quelques rares exceptions, un universitaire qui ne publie pas en anglais n'a pas le droit de citer les paroles. Alors, je vous l'avoue, je n'ai pas retrouvé, en préparant cet exposé, la preuve de ce que j'avance en ce qui concerne Eisenhower. Mais par contre, j'ai trouvé mieux ou pire, c'est ce. Alors, permettez-moi de confesser ici une faiblesse que je pense, vous me pardonnerez, je suis d'avis depuis longtemps que la Grande-Bretagne a adhéré à l'Europe communautaire en sachant que c'était un club de buveurs de Bourgogne, mais avec d'emblée la ferme intention de le transformer au plus vite en club de buveurs de whisky. On reconnaîtra une qualité, en tout cas aux Britanniques, ils sont d'une redoutable efficacité. Et ils sont en passe de réussir. Mais je crois en plus que le mal est peut-être plus profond, peut-être plus pervers. Je reviens à l'histoire. Université de Harvard, 6 septembre 1943. Ce jour-là, un certain Winston Churchill reçoit un diplôme d'honneur et prononce un discours. Que dit-il? Que l'anglais, cette langue commune qui a été donnée aux Britanniques et aux Américains, est, je le cite, un héritage commun sans prix, d'accord, et qu'il se pourrait bien que cette langue, je le cite à nouveau, devienne un jour la base d'une cité commune. Très bien. Simple propos de circonstance? Eh bien non, peut-être pas, peut-être vraiment l'ébauche d'un véritable projet politique. Je ne vois pas, ajoute Churchill, pourquoi nous ne tenterions pas d'étendre notre langue plus loin encore, à travers le monde, ni pourquoi, sans chercher des avantages égoïstes sur autrui, nous ne profiterions pas de cette précieuse amitié et de cet héritage. On est là dans le registre d'une autre qualité reconnue aux Anglais, la perfidie, puisque Churchill ajoute aussitôt qu'Américains et Britanniques devraient étendre l'usage de l'anglais afin qu'ils puissent, lors de leur voyage dans le monde, je le cite, trouver partout un moyen, aussi primitif soit-il, on y est, l'homme, d'expression et d'entente. Ce qui, pour le premier ministre britannique de l'époque, permettrait aussi, je le cite à nouveau, de profiter à bien d'autres races et favoriser le développement d'une structure nouvelle pour le maintien de la paix. Et Churchill de conclure que de tels projets assurent des conquêtes, je le cite à nouveau, que de tels projets assurent des conquêtes plus heureuses que celles que moissonnent les voleurs de territoires ou de pays étrangers, les oppresseurs et les exploiteurs, le tout étant ponctué par un vibrant, les empires de l'avenir sont les empires d'esprit. Wow. Vous avez bien entendu. D'où cette question. L'Europe n'est-elle pas devenue victime consentante, ou à tout le moins coupablement ignorante, une partie de cet empire de l'esprit? En tout cas, je crois que dans le contexte européen, le British Council semble avoir constitué à l'évidence le bras armé de cette apparente stratégie linguistique, lui qui, dans un rapport annuel du début des années 60, indiquait ouvertement, je cite à nouveau, « Enseigner l'anglais au monde peut être presque considéré comme une extension de la tâche qui s'imposait à l'Amérique lorsqu'il s'agissait d'imposer l'anglais comme langue nationale commune à sa propre population d'immigration. » Pardon, pas des autochtones. Permettez-moi, alors, perfidie ennemie, de vous poser cette question peut-être ingénue. Après avoir cassé l'administration à la française, qui était la Commission européenne depuis les origines, est-ce tout à fait par hasard si Neil Kinnock est devenu le président du British Council? Autre indice troublant. Un proche conseiller de Tony Blair, Charles Grant, n'a-t-il pas prédit dans un opuscule publié au début des années 2000 et intitulé « L'avenir de l'Union européenne, une vision optimiste », ça dépend pour qui, le triomphe absolu de la langue anglaise au sein des institutions européennes en annonçant que celle-ci serait reconnue bientôt langue unique de travail et de communication de l'Union, et précisément, ce devrait être chose faite vers 2005. Dire, ça ne prouve rien, sans doute. Mais il me semble qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et en cour d'assises, nous le savons tous, des hommes se font condamner sur la base d'un faisceau de présomption. Il me semble qu'il y a peut-être un certain nombre de présomptions. Je voudrais toutefois conclure sur un mode un peu plus optimiste. S'il s'avère, et je n'affirme rien, je soulève plutôt des pistes, s'il s'avère qu'il y a eu complot pour asseoir l'hégémonie linguistique de l'anglo-saxon afin de dominer le monde politiquement, militairement et sur les plans économiques et financiers, s'il devait être démontré et prouvé que ce qui est en œuvre à Bruxelles, c'est un projet de domination de l'Europe par la langue au service du pouvoir financier américain par le relais de l'Angleterre et de sa city, y simplement réfléchir suffirait déjà, selon moi, à semer le vent d'une révolte salutaire, en tout cas nécessaire. Et les temps s'y prêtent, comme jamais avant, dans le siècle précédent en tout cas, avec la crise financière gigantesque qui est née aux États-Unis, dans l'hypercapitalisme financier anglo-saxon, c'est une forme de conditionnement des esprits qui, de par le monde, se lézarde, peut-être. Cette crise économico-financière bouleverse une donne que l'on pensait immuable. Avec la montée en puissance de nouveaux acteurs, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, ce sont de nouveaux acteurs qui s'affirment porteurs de projets, de sociétés, qui ne seront plus les mêmes que celui défini à Washington et à la City. Le monde de la pensée unique anglo-saxonne, me semble-t-il, se meurt ou pourrait se mourir du coup. La langue anglaise tombera sans doute demain, peu ou prou, de son piédestal pour redevenir sur le globe ce qu'elle était en réalité, c'est-à-dire une langue parmi d'autres. Et ma conclusion sera très simple. Il serait peut-être bon que l'Union européenne, unie dans la diversité, n'oublions pas, s'en persuade et qu'elle en tire les conséquences, faute de connaître peut-être demain dans le monde le même sort que l'anglais. Thank you.